ますし、donc le thème, vous savez, ce soir et de cette année, c'est ce lien entre la pulsion et le fantasme. Et le symptôme qui est annoncé, mais disons pour le moment, en fait, essentiellement pulsion et fantasme. Et encore, dans pulsion et fantasme, certains aspects plus que d'autres. Et cette année, donc on est parti de cette remarque de Lacan à la fin du séminaire sur les quatre concepts, que le fantasme fondamental devient la pulsion. Donc ce qui établit un lien entre les deux en rapport avec la question de la fin de l'analyse. Alors, ce soir, donc, je vais repartir de quelque chose sur lequel j'avais terminé la fois dernière, mais de façon peut-être un peu rapide, celle de la notion de fantasme fondamental. Et je dirais que Lacan ne parle pas de pulsion fondamentale, mais il aurait pu d'une certaine façon le faire, et peut-être ces indications étaient une façon de nous laisser le faire nous-mêmes. Alors, le fantasme fondamental, c'est à distinguer de ce que Freud appelle les fantasmes originaires, les Urfantasien, hein, qui, dit-il, Freud, dans l'introduction de la psychanalyse, par exemple, les énumères, c'est ceux des rapports sexuels entre les parents, voire des rapports sexuels entre les parents quand le bébé est dans le ventre de la mère, hein, donc observé du ventre de la mère. Donc là, c'est des fantasmes de séduction et des fantasmes de castration. Donc, c'est les principaux fantasmes que Freud énumère comme fantasmes originaires. Et c'est pas à confondre, justement, avec ce que Lacan appelle le fantasme fondamental. Et si on parle, on peut voir dans certains textes des expressions qui font une espèce de mixte des deux. Quand on parle, certains analystes parlent des fantasmes fondamentaux selon Freud. Non, Freud parle des fantasmes originaires et Lacan parle du fantasme fondamental. Ce qui n'est pas pareil. Dans deux de mes définitions, je vous la rappelle, dans le séminaire « Le désir et son interprétation », Lacan, la formule symbolique « S barré poinçon de petit tas » donne sa forme à ce que j'appelle le fantasme fondamental. Et ceci, la forme vraie de la prétendue relation d'objet et non la façon dont celle-ci a été jusqu'ici articulée. Donc ça s'inscrit dans le cadre de la spécification de ce qu'on appelle la relation d'objet. Et cet objet étant donc l'objet A, en l'occurrence, qui est le support, dit Lacan, que le sujet se donne pour autant qu'il défaille. Qu'il défaille à quoi ? À sa désignation de sujet, à se nommer comme sujet. Et que dans ce moment où il défaille au terme de tout un... une évolution et une analyse, il défaille à pouvoir trouver le signifiant dernier, en quelque sorte, qui le désignerait comme sujet, qui le nommerait comme sujet, eh bien, il y a quelque chose à quoi il se raccroche, qui est cet objet A, quelque chose, dit Lacan, qui est pris à ses dépens, hein, prélevé sur le corps, parce que c'est lié aux origines du corps, tant qu'objet de la pulsion, et... c'est quelque chose, dit-il, de réel, sur lequel il a prise dans un rapport imaginaire et qui est porté à la pure et simple fonction de signifiant. Et cette phrase est un petit peu compliquée, mais vous voyez qu'elle est, à mon avis, très intéressante parce que elle nous, en quelque sorte, les dimensions réelles, symboliques, imaginaires, dans le moment même de cette saisie de l'objet A dans la formule du fantasme. C'est-à-dire que cet objet A lui-même est pris tel qu'il peut trouver sa place dans le fantasme, et lui-même pris dans un nouage, disons, entre le symbolique, l'imaginaire et le réel, c'est-à-dire quelque chose de réel sur lequel il a prise dans un rapport imaginaire, donc un rapport imaginaire à quelque chose de réel et qui est porté à une fonction signifiante. Vous voyez, il y a toute une articulation entre les trois registres, de façon donc synchronique dans ce nouage du fantasme. Et c'est intéressant, on va le reprendre, par rapport aussi à cette problématique de la sublimation dont on a parlé la fois précédente, dans la mesure où Lacan, pour la sublimation, dans sa définition de la sublimation, dit que celle-ci consiste à ce que la collectivité reconnaisse justement cette une sorte de colonisation de l'objet A d'Asdig. C'est-à-dire que l'objet A venant coloniser le champ de d'Asdig, ce qui peut apparaître un peu curieux dans la mesure où là il en parle que c'était un objet A, une formation imaginaire, hein, qui viendrait à cette place de d'Asdig, mais qui est contradictoire, puisque d'Asdig, c'est pas imaginaire, c'est justement le trou, le réel, c'est l'innommable, c'est le sujet réel, c'est-à-dire qui n'est pas représentable du tout, donc c'est pas du tout. Donc ce rapprochement des deux peut faire problème, mais si, effectivement, on se souvient que l'objet A dans le fantasme est pris lui-même dans une relation ternaire, réelle, symbolique, imaginaire, ça rend plus compréhensible, il me semble, cette définition de la sublimation par Lacan qu'il fait dans l'éthique. Tu es d'accord, hein? Alors, ce mathème, le mathème S barré poisson de A, que je vous ai écrit, il n'y a pas de feutre, mais je pense qu'on voit bien. Hein? On voit pas. Personne n'a de feutre. Comment? Avec ça, mais il n'y aura plus de stylo après. On voit pas, mais c'est à cause de la lumière, peut-être. Non? On voit pas? Ça va? Bon. Donc, c'est cette formule qui constitue une formule du fondement du fantasme, c'est-à-dire le fondement, c'est la structure fondamentale à laquelle peuvent se réduire toutes ces formations imaginaires du fantasme. Son habillage, ses expressions langagières, grammaticales, peuvent se réduire à cette formule qui est à la fois une formule de structure logique et d'une structure topologique. Qui donc s'inscrit dans une temporalité de la synchronie de cette jonction, formule qui se lit de différentes façons, S barré poinçon de petit a ou S barré coupure de petit a, puisque la question de la coupure est effectivement essentielle dans le rapport topologique entre le sujet et l'objet A. Rapport topologique que Lacan a matérialisé avec la figure du cross-cap qui, coupé d'une certaine façon, donne une bande de Möbius et un disque, bande de Möbius venant identique pour Lacan, pas un modèle, mais identique au sujet en tant que la bande de Möbius est une coupure par elle-même, et l'objet A en tant que rondelle non spéculaire, d'ailleurs n'ayant pas de représentation, d'inversion gauche-droite, par exemple, dans le miroir. Et cette structure, donc, il faut bien voir que cette structure, cette formule, ce matème du fantasme, écrit comme ça, est un matème voilà, qui recèle une dynamique, qui implique une temporalité et une dynamique. Et elle est dynamique aussi à la fois dans sa formation, c'est-à-dire, ça on le verra plus tard, mais elle est dynamique dans son engendrement, parce que par elle-même, elle peut engendrer en quelque sorte d'autres formules sur le même modèle plus spécifiques qui seraient celles du fantasme dans l'hystérie ou du fantasme dans l'obsession, par exemple, dans la névrose obsessionnelle. Dans l'hystérie, par exemple, Lacan construit une formule du fantasme sur le modèle de l'espare poisson de l'art, qui décrit petit a sur moins phi, poisson de grand A. Et pour l'obsessionnel, il va écrire grand A barré, poisson de grand phi, parenthèse A, A prime, A seconde, A3, A4, etc. Voilà. Bon, je ne vous détaille pas la signification de ce problème tout de suite, parce que c'est. Mais elle se trouve dans le séminaire Le Transfert, page 294 notamment. Et c'est simplement pour vous dire que c'est la formule Esbarre et Poisson, etc., est une formule générique qui peut engendrer aussi d'autres formules plus particulières. Alors, une fois posée cette définition du fantasme fondamental, hein, pas les fantasmes originaires, bien, disons, trois questions se posent, en tout cas, se sont posées à moi. D'abord, celle de prendre un exemple, hein, un exemple de fantasme fondamental dont la formule pourrait rendre compte. Voilà, on parle du fantasme comme ça, fondamental, mais voilà, quel fantasme on va prendre, de quoi on parle, finalement, quand on parle de. Si ce n'est pas les fantasmes originaires, de quoi on parle quand on parle de fantasmes fondamentaux. Bon. Deuxièmement, celle de ce que veut dire traverser le fantasme. Vous savez que c'est cette formule qui vraiment a un grand succès toujours, l'analyse, il faut avoir traversé le fantasme. Enfin, ça devient un slogan qui finit par ne plus rien dire. D'une certaine façon, dans ce séminaire, on le reprend, mais on le reprend, vous voyez, en le modulant à travers cette expression qu'utilise aussi Lacan de le fantasme fondamental qui devient la pulsion. Vous remarquerez que jamais, quand on lance comme ça, comme un slogan de traverser le fantasme, que tu as traversé le fantasme, jamais on te demande si ton fantasme est devenu la pulsion. Et là maintenant, pourquoi demander? Non, mais ça permet un peu de sortir de ces trucs bannières voilà, qui finissent par ne plus vouloir rien dire. Et donc, on voit que une première piste dans cette expression de traverser le fantasme serait traverser le fantasme, c'est-à-dire traverser toutes les occurrences imaginaires, langagières par lesquelles le fantasme s'exprime, pour arriver à vivre en quelque sorte cette structure, le moment synchronique de cette structure ternaire du fantasme, internaire, puisqu'elle comporte trois éléments, S barré, le poinçon et l'objet A, c'est trois, de la déplier, d'en isoler ces éléments. Et donc, ce qui implique de reconstituer un moment un peu mythique, certes, mais un moment où ces éléments se nouent ensemble pour aboutir à ce nouage qu'on va appeler fantasme. C'est pas. C'est ce nouage qu'on va appeler fantasme. D'où il y aura une logique. Parce qu'il y a un séminaire de Lacan. Qui s'appelle la logique du fantasme en 67. Donc le fantasme a aussi tout à fait à voir avec les questions de la logique. Alors, donc il s'agit de... On voit qu'une première piste de traverser le fantasme, c'est de revenir à ce moment où le sujet défaille dans sa certitude de sujet. Hein, qui n'est pas à n'importe quel moment de l'analyse. Et voilà, c'est quelque chose qui nécessite déjà... tout un parcours. Ce moment est celui où Lacan dit le sujet défaille quand il est assujetti à un signifiant primordial. Signifiant primordial, donc, pour reprendre l'expression de Lacan, un peu plus loin, toujours dans les quatre concepts, quand il dit que le désir d'analyse n'est pas un désir pur, c'est un désir d'obtenir la différence absolue, celle qui vient quand confronté au signifiant primordial, le sujet vient pour la première fois en position de s'y assujettir. Et donc cette expression s'assujettir au signifiant primordial revient à plusieurs reprises dans le séminaire de Lacan, les quatre concepts. Et qu'est-ce que ça veut dire? Donc s'assujettir au signifiant primordial, s'assujettir au signifiant, c'est presque pléonasmatique. On s'assujettit au signifiant parce qu'effectivement, c'est le signifiant qui fait le sujet. Donc le sujet est, par définition, assujetti au signifiant. Hein. Mais ce qui est nouveau, disons, nouveau à ce moment-là, dans le texte de Lacan, c'est que Lacan parle d'un signifiant primordial. Et ce signifiant primordial, quel est-il? Eh bien, c'est... Il dit aussi signifiant originel. Là, le mot originel revient. C'est le signifiant premier, dit-il. Signifiant premier, voilà. C'est le premier. Et donc, c'est même pas. Donc, c'est quelque chose qui a à voir avec le refoulement originaire. C'est même pas un signifiant qui va représenter le sujet pour un autre signifiant, comme dans au départ. Hein. Donc, ils sont deux. Mais ce serait un temps antérieur, en quelque sorte, qui se constitue avec ce noyau, cet ombilique, on parle Freud aussi de l'Oberdangung, du refoulement originaire, qui ne se substitue à aucun autre signifiant, mais qui est un signifiant hors sens, primordial, et qui abolit en quelque sorte tous les sens. Et c'est à partir de cette abolition de tous les sens que Lacan dit que justement l'interprétation analytique n'est pas ouverte à tous les sens. Hein. Parce que, et il fait la différence entre le sujet, l'infini du sujet et la finitude du désir. Et c'est pas ouvert à tous les sens parce que il est porteur, dit Lacan, de l'infinitisation de la valeur du sujet. Vous voyez donc, c'est pas dire que ça abolit tous les sens, parce que c'est strictement hors sens, c'est pas la même chose de dire qu'il est ouvert à tous les sens. Et que ce signifiant primordial, donc premier hors sens, provoque un effet de retour, en quelque sorte, qui redébouche sur la question du zéro, en quelque sorte, du vide du sujet. Enfin, là, je ne vais pas le développer, c'est toujours dans les quatre concepts, mais c'est pour signaler cette indication sur l'interprétation qui n'est pas ouverte à tous les sens. Précisément parce que le sujet, il y a une infinitisation, il y a quelque chose de l'ordre du zéro, là, qui est touché, en rapport avec l'abolition de tout ce hors-sens du signifiant qui le détermine, du signifiant qui le détermine. Et que, dans ce texte-là, les quatre concepts, Lacan nous donne un exemple d'un tel signifiant premier, primordial, c'est celui du loup dans le cas de l'homme, hein, le signifiant loup, du vol. Voilà, il dit effectivement, donc relisez le texte de Freud sur l'homme loup, avec l'apparition du loup non seulement bien sûr dans le fameux rêve, mais aussi dans les histoires des contes enfantins par le père ou par qui. Enfin, il y a toute une série d'occurrences du loup qui apparaît, et aussi avec les jeux de mots, le V de l'heure, du 5 de l'heure, qui est aussi le V des jambes de Boucha, la bonne, qui est le V aussi de W de Wolf, hein, et que le rêve des papillons, avec les vespes, les papillons, mais que Freud, l'homme au loup prononce non pas vespes, qui veut dire les guêpes, mais qui les prononce espes. Et donc, dans sa prononciation, ça, c'est Freud qui le remarque, fait tomber le W de Vespe. Il prononce Vespe, Espe. Et donc Espe, c'est les initiales de son nom. S.P. Sergei Pankejev. Et donc il y a le W qui tombe, qui choix. La lettre W. Et donc voilà, si vous voulez, on peut poursuivre, mais ce que entend Lacan par signifiant premier, primordial, auquel le sujet est assujetti, hein, et peut-être d'ailleurs, ça, je ne sais pas, on n'en a pas parlé, mais peut-être ça va rejoindre la question de la fixation, hein, dont tu vas parler, eh bien, voilà, c'est là un exemple, l'exemple du loup, du wolf, et vous savez que l'homme au loup continuait jusqu'à la fin de sa vie de signer ses tableaux, Wolfman, enfin, c'est comme ça qu'il signe ses tableaux, pas simplement les tableaux qui représentait le rêve que les analystes lui demandaient de peindre, mais les tableaux qu'il faisait de paysages et essayer. Donc là, il y a eu effectivement une fixation à ce signifiant, fixation qui a été bien sûr largement induite par les analystes. Enfin, alors là, c'est encore toute une histoire. Alors. Bon, donc ça c'était le deuxième point. Le troisième point, c'est en partant de troisième question, disons, à laquelle répondre, c'est en partant de cette formule, S barré poisson de petit a, comprendre comment elle s'articule avec celle de la pulsion, vous savez, qui est donc S barré poisson de petit b. Et là, bien sûr. Grand départ, non, excusez-moi. Donc on ne peut manquer d'être frappé du rapprochement de la structure très proche de ces deux formules dans lesquelles on trouve à chaque fois le sujet barré, le poisson, et dans un cas l'objet A, dans un autre cas la demande. Mais dans deux formules ternaires construites sur le même modèle, donc il y a quelque chose là qui... forcément, enfin, induit un rapprochement, induit au moins la question du rapprochement de la pulsion et du fantasme dans cette structure extrêmement proche et voisine des deux formules qui se trouvent, je vous rappelle, toutes les deux formules se trouvent sur le graphe, donc sont déjà articulées par le graphe. Alors, première donc, question posée, celle de trouver un exemple pour un exemple de fantasme fondamental répondant à la définition donc, de Lacan du fantasme fondamental. Et ben, on ne va pas chercher très loin, hein, on va prendre celui que Lacan lui-même a pris dans son séminaire précisément intitulé « La logique du fantasme ». Et qui est celui de un enfant est battu, tout simplement. Et dont on sait par ailleurs qu'il était le fantasme de sa fille, Anna Freud, qu'il avait en analyse. Et qui a été l'objet d'ailleurs de son mémoire pour entrer à la société psychanalytique. Alors, ce fantasme est particulièrement à retenir est valable pour le conseil comme fantasme fondamental parce que, comme Freud le note et Lacan le souligne, n'est pas un fantasme lié à une structure particulière. C'est-à-dire qu'on le trouve dans plusieurs types de névroses, dans la perversion, etc. Il n'est pas lié à une structure clinique particulière. Donc là, c'est ce côté fondamental. Et d'autre part, ce n'est pas un fantasme qui relèverait en quelque sorte, enfin qui serait issu du fait que l'enfant renverrait à une réalité d'un enfant battu. Pas du tout, au contraire, c'est un fantasme qui va plutôt se trouver chez des enfants qui n'ont pas été battus. Et donc, ça n'a rien à voir, ce fantasme n'a rien à voir avec le fait que les enfants aient été battus ou pas. Et, comme vous le savez, donc, Freud reconstruit trois phases de ce fantasme, trois moments. Et c'est aussi une chose qui peut parfois induire en erreur, c'est-à-dire qu'on se souvient des trois phases, comme ça, toc, 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 mais on oublie de se souvenir que c'est, premièrement, c'est des choses qui sont reconstruites dans l'analyse, qui prennent du temps, à partir de bribes, de fantasmes. D'abord, il faut que les gens parlent de leurs fantasmes, ce qui est loin d'être toujours le cas, c'est vrai. Il faut remarquer, en analyse, toujours aujourd'hui, les gens ne parlent pas forcément de fantasmes, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais et que, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est reconstruit par bribes, toujours avec des déformations, souvent, donc c'est pas quelque chose qui est donné comme ça par l'analysant. Hein. Ça nécessite un temps et une attention pour que mettre des éléments, voir comment les déformations sont passées de la mère au père ou à un homme, un instituteur ou à quelqu'un d'autre, comment les rôles comme ça, bon, comment ça peut être juste une partie du fantasme qui est évoqué. Donc ça prend du temps dans l'analyse. Et ce que dit Freud, c'est que ça prend le fantasme lui-même a pris du temps à se former. C'est-à-dire que ça, les trois étapes, trois temps, disons, du fantasme, correspondent pour Freud à trois moments, disons, dans le développement de l'enfant. C'est pas, tout n'arrive pas en même temps. Voilà. Donc ça, c'est important pour qu'on n'espère pas entendre ou accéder directement au fantasme fondamental comme ça. C'est quelque chose qui demande une certaine construction que Freud a faite, en particulier donc pour le deuxième temps, et construction aussi de relier les trois temps entre eux, quoi, parce qu'il ne peut y avoir que des bribes d'un des temps, mais pas des autres. Donc le fait même de relier les trois ensemble est déjà une construction, est déjà une articulation signifiante, vous voyez, qui élève, disons, le flottement comme ça imaginaire des fantasmes, des bribes, à une valeur, en effet, signifiante, qui, je le dirai tout à l'heure, mais enfin, qui pour Lacan, non seulement a une valeur logique comme ça, mais a une valeur de vérité, c'est-à-dire qu'a une valeur de vérité et constitue un axiome. C'est-à-dire qu'il élève véritablement le fantasme au rang d'un axiome, quoi. Un axiome ayant signification de vérité. Ce qui est une façon à la fois très freudienne et en même temps qui implique une certaine torsion à ce qu'a dit Freud, puisque Freud, dans l'introduction à la psychanalyse, se demandait, se posait la question, ces fantasmes qu'on avait, est-ce que ça correspondait à la réalité ou pas, est-ce qu'il a été battu ou est-ce qu'il n'a pas été battu, etc. Bon. Et donc, si on dit que c'est vrai, à ce moment-là, c'est plus... Enfin, bon. Donc, et donc là, Freud dit, ces fantasmes correspondent à une réalité. Oui, c'est pas la réalité matérielle, c'est une autre réalité, c'est la réalité psychique. Voilà. Donc, effectivement, la question se posait toujours de la vérité des fantasmes. Et là, Freud répond, la vérité des fantasmes, c'est la réalité psychique. Lacan c'est un peu différent, puisque ce n'est pas la vérité des fantasmes, c'est de dire que c'est le fantasme qui dit la vérité. C'est-à-dire, et qui dit la vérité, c'est-à-dire qui est un axiome de la vérité et des transformations de la vérité. Et ça, c'est donc beaucoup plus fort. Donc, c'est, vous voyez, c'est qu'on, là, on touche à des... Et donc, l'intérêt aussi, c'est à partir de là, l'intérêt, en effet, d'arriver à quelque chose de cette structure logique et topologique du fantasme au-delà qu'un rêverie, c'est d'arriver, justement, à un positionnement de la vérité, un positionnement qui soit autre que simplement celui qui répond aux formes propositionnelles de la vérité, le vrai, le faux, le vrai qui vrai plus vrai égale vrai, faux plus vrai, etc. Enfin, des choses binaires comme ça, que là, il y a un rapport d'une logique de la vérité, quand même logique, mais autre que celle des propositions logiques habituelles. Que, donc, voilà, enfin, tout ça, c'est pour inciter, au fond, les gens, quand même, à dire leur fantasme, hein, pour qu'on puisse avoir un certain rapport à la vérité, quoi. Voilà, l'action de vérité, de... Comment ? Si je savais. Ben oui, mais... Enfin, bon. Donc, je vous rappelle, alors, ces trois phases reconstruites par Freud, les trois phases de ce fantasme. Donc, on dit ce fantasme, vous voyez, c'est déjà... Il y a un, le premier, donc, qui apparaît, selon Freud, dans, chez les petits enfants, la petite fille, le petit garçon, les plus... plus petit, c'est le père qui bat, le sujet voit le père qui bat l'enfant que je hais, quoi. Le rival, le petit frère, un autre enfant, c'est-à-dire, voilà, le fantasme, le père bat un enfant. Le père bat un enfant que je hais, c'est le rival, celui dont je suis jaloux, celui que j'envie, le frère de lait, tout ce qu'on veut, hein. Et il voit ça. Et donc, c'est ça qui l'excite, qui provoque une excitation sexuelle, déjà. Et c'est un fantasme. C'est un fantasme pour lequel... Ça, je le regarde. Deuxième temps, et c'est ça qui est intéressant, c'est un temps que, en principe, tout au moins, est rarement rencontré. C'est qui est en principe... refoulé, c'est « je suis battu par le père ». Et ce temps, donc, est un temps inconscient. C'est un temps qui correspond au temps d'un refoulement. « Je suis battu par le père ». Et le troisième temps, c'est le conscient, ça revient donc plus tard, le sujet qui regarde un enfant qui est battu. C'est plus le petit frère qui est battu par le père, c'est « on bat un enfant », le sujet s'imagine, regarde, regardant un enfant qui est battu. Je simplifie, hein, ça peut être un, plusieurs, bon, c'est dans sa forme réduite. Et ce qu'il faut voir, c'est que aussi, donc, dans sa description de ces différents temps, à chaque fois, Freud note que, enfin, bon, il parle d'un fantasme, bien sûr, des transformations d'un fantasme, mais en même temps, dans ces fantasmes, il inclut finalement l'épulsion scoptophilique de voir et l'épulsion sadique masochiste, c'est-à-dire deux types de destins d'épulsion qui soit c'est l'épulsion qui destin qui se renversement dans le contraire ou retournement sur la personne propre, c'est-à-dire deux façons de destin de pulsion, scoptophilique et sadomasochiste, qui sont incluses finalement dans la dynamique de ces fantasmes. Donc vous voyez que dans même le texte de Freud lui-même, Freud fait cette articulation entre pulsion et fantasme. Ça, c'est aussi très important. Et dans le deuxième temps aussi, là, celui qui est refoulé, il est donc je suis battu par le père. Il y a donc là aussi cette participation de pulsion masochiste et sadique. Eh bien, c'est correspond en quelque sorte à deux facteurs qui est un celui de la culpabilité et l'autre celui de l'érotisme comme tel. C'est-à-dire celui de la culpabilité, c'est-à-dire je suis battu par le père, tel que je suis tellement coupable d'avoir voulu que l'enfant soit battu, qu'un autre enfant soit battu par le père, je suis tellement coupable que je pense que c'est moi qui suis battu par le père. Parce que, c'est, voilà, je me punis moi-même d'être battu par le père parce que je me sens coupable que le père ait battu l'autre. Ça, c'est le facteur, donc, renversement de la culpabilité sur la personne propre. Et le facteur d'érotisme, c'est-à-dire que dans le fait d'être battu par le père, eh bien, se mêle de l'érotisme. C'est-à-dire le plaisir d'être battu par le père. Donc ça, c'est et ça, ce temps-là, ce deuxième temps, est, selon Freud, refoulé, pas conscient. Alors, c'est vrai, il n'est pas toujours inconscient, il peut très bien être retrouvé, hein, c'est pas exclu, mais Lacan lui donne quand même la valeur d'un temps refoulé, donc d'un temps absent, si vous voulez. Il y a le temps clairement conscient, qui provoque l'excitation sexuelle avec laquelle les enfants se masturbent, hein, hein, et le temps, voilà, plus ou moins conscient, peut-être qu'il peut y penser, mais c'est pas aussi conscient que dans les autres cas. Donc on peut noter déjà que dans ces trois phases successives dans le temps, qui sont ensuite, qui s'articulent ensemble, hein, donc il y en a trois, c'est une articulation grammaticale, ternaire donc, dans laquelle il y a ce maillon dit inconscient que Freud reconstitue, et qui est nécessaire à postuler pour la cohérence en quelque sorte du fantasme. Donc là encore, le fait qu'il s'agisse de formules grammaticales constitue un point commun entre pulsion et fantasme, hein, puisque pour fantasme, donc c'est des formules grammaticales, là, du fantasme, vous voyez, et pour les pulsions, eh bien, c'est pas dit là dans le même texte de Freud, mais enfin, dans la reprise qu'en fait Lacan, les pulsions aussi se définissent par des formules grammaticales, dans les formules de manger, être mangé, se faire manger. Formules comme ça. Donc, trois aussi ternaires. Donc, ça aussi constitue cette formule langagière grammaticale constitue le. Un point commun, hein, indéniable, entre la pulsion et le fantasme. Et, je le dis, mais je reviendrai, dans le séminaire La logique du fantasme, précisément, à certains moments, Lacan dit les pulsions, le fantasme, les pulsions. Enfin, il fait quasiment l'équivalence entre les deux. Donc il y a vraiment un mouvement pour ça qui était très, faut être très fort, mais très. Qui n'est pas véritablement, enfin, c'est ça qui est intéressant, qui n'est pas véritablement, sauf là, il dit carrément c'est l'équivalent, ce qui est quand même un peu choquant, mais donc il le dit à un certain moment et en fonction d'un certain éclairage. C'est-à-dire que pour pouvoir le dire, il faut déjà avoir pensé un peu une certaine articulation sur d'autres plans du fantasme et de la pulsion. Mais sinon, on ne peut pas le dire d'anglais, sinon on dit plus rien, on réduit tout, on aplatit tout, quoi. Il ne faut pas le dire trop vite. Et parce qu'à ce moment-là, quand il va le dire, quand il va dire dans la jeu du fantasme, il va mettre au fond pulsion fantasme, il va les démêler, il ne va pas les distinguer, disons, sans dire clairement que c'est la pulsion ou fantasme, ou pulsion, c'est-à-dire fantasme, il va, à ce moment-là, il va les prendre ensemble pour les opposer encore à un autre terme qui est celui du rêve, ou celui de l'inconscient, du vide, etc. C'est-à-dire que est vrai opposé, donc au fond, la grammaire, la forme, le langage du côté de la grammaire et le langage du côté du signifiant qui se fout. Donc, pour ça que ce moment-là qu'on est en train d'étudier, c'est un moment dans l'enseignement de Lacan, un moment qui ne va pas évoluer, qui n'est pas donc définitif, mais qui n'est pas pour autant, parce qu'il n'est pas définitif, qui n'est pas obsolète, hein, mais il ne faut pas non plus considérer que là, on a le dernier mot de Lacan sur la question. Mais enfin, c'est un moment important aussi, ne serait-ce que pour comprendre pourquoi après, il va, sans même le dire, arriver à les rapprocher de ces points. Alors oui, donc bah, je crois que plus j'ai dépassé le temps. Donc...
Tu as peut-être quelques minutes à terminer en plus.
Bah, écoute, attends, juste pour terminer, parce que oui, effectivement. Non, mais pas 10 minutes, pas 10 minutes. Pas 10 minutes. Mais,
terminer, ça peut prendre son temps, tu as dit la dernière fois.
Oui, non, mais parce que. J'ai ce fantasme, donc, voilà, c'est la formule du fantasme, prendre un exemple de formule du fantasme fondamental, donc de S barré, poinçon de petit a. Et bien, en quoi ce fantasme-là, analysé par Freud, commenté par Lacan aussi, en quoi correspond-il à cette formule? Eh bien, Lacan en donne l'interprétation à la fin, précisément de son séminaire des formes de la logique du fantasme, c'est que, il fait correspondre le sujet au temps 2, hein, le sujet, donc le temps, le sujet est absent, c'est le temps inconscient, le vide, le zéro, c'est le temps d'évanouissement du sujet, c'est le temps 2, selon Freud. Et donc c'est S barré, là il est barré, on est à ce niveau-là, on ne peut pas dire, on lit, mais de façon pas sur le même plan que les autres termes. Et l'objet A, c'est le regard. Donc S barré, poisson de Tita, dans le cas d'un enfant abattu, c'est S barré, le sujet, le sujet de toute façon est barré. Il est dans les dessous, et le regard, c'est le regard. Pourquoi le regard? Et effectivement, on se reporte au texte de Freud, où on voit que le regard est très présent dans les deux autres temps qui ne sont pas celui du temps intermédiaire. Le premier temps, où effectivement, c'est l'enfant qui voit l'autre enfant haï qui est battu, et dans le troisième temps, de. Pareillement, Freud note que il est comme spectateur, l'enfant auteur du fantasme est spectateur de la scène. Donc on voit que la fonction du regard, là, a toute sa place. Et donc c'est comme ça que Lacan le lit avec sa formule comme formule du fantasme fondamental. Et dans la mesure, oui, c'est aussi l'idée que ce fantasme est un arrangement signifiant. Donc ça, c'est lié à la question du langage. Effectivement, c'est une formule grammaticale, c'est une formule grammaticale du signifiant. Voilà, du signifiant, cette formule grammaticale, c'est un arrangement signifiant, donc qui détermine le sujet. Donc, dont j'ai donné la formule des non-temps, quand le tita est séparé, ce qui veut dire qu'il a deux caractéristiques, la présence d'un objet tita, et d'autre part, rien d'autre que ce qui est engendré, que ce qui engendre le sujet, comme séparé, à savoir une phrase. Voilà, c'est la phrase qui engendre le sujet. C'est pourquoi un enfant est battu est typique, un enfant est battu n'est rien d'autre que l'articulation signifiante un enfant est battu, à ceci près, vous voyez, c'est pas... Fantasme, c'est l'articulation signifiante un enfant est battu. C'est pas que il y a la réalité de un enfant est battu. C'est la phrase. C'est la phrase grammaticale et signifiante avec toutes ses transformations, etc. C'est ça qui le définit comme fantasme. Fantasme, c'est quelque chose qu'on peut. Voilà. Il y a des mots. enfant est battu, donc n'est rien d'autre que l'articulation signifiante un enfant est battu, vous voyez. À ceci près, lisez le texte, reportez-vous-y, que là-dessus, R, E2RE, que là-dessus vole, rien d'autre que ceci, mais impossible à éliminer, qui s'appelle le regard. Voilà. Avant de faire jouer les trois termes, la genèse de ce produit qui s'appelle le fantasme, il importe quand même de désigner ce qu'il est. Et donc c'est là, dans la foulée de ça, Lacan dit que ce qu'il est, c'est une signification de vérité. Une signification de vérité en tant qu'il est cette structure grammaticale. Et qu'il est à prendre, le fantasme est à prendre aussi littéralement que possible. Et ce que vous avez à faire, c'est à trouver dans chaque structure, à définir les lois de transformation qui assureront à ce fantasme, dans la déduction des énoncés du discours inconscient, la place d'un axiome. La place d'un axiome. Vous voyez, quand même, ça va très bien. Bon, donc, comment Lacan justifie, enfin, à quoi il accroche ça, cette place d'axiome, de signification de vérité? Il le fait en se référant au groupe de Klein, mais dont je parlerai pas ce soir parce que ce serait beaucoup trop long, donc sans doute une prochaine fois, et aussi une prochaine fois ce que je voulais faire ce soir mais je n'ai pas pu, c'est de revenir, disons, avant le groupe de Klein qui est de 67, la logique du fantasme, de revenir au séminaire 58-59, le désir et son interprétation, où Lacan donne ses définitions du fantasme mental, de montrer comment on peut reconstituer en quelque sorte l'articulation de S barré de Pita et avec S barré et grand D, quoi. C'est-à-dire comment en partant de la question de la demande, la division de l'autre par la demande, eh bien, on retrouve la formule du fantasme et ça débouche sur celle de la pulsion, dans la mesure où la pulsion, c'est aussi une relation à la demande de l'autre. Voilà, donc ça sera pour une prochaine fois. Oui, mais ce qui est terrible, c'est qu'à chaque fois, je rajoute des trucs antérieurs qui font que ça diffère. Il faudrait peut-être penser, je me demande là, de faire des séminaires qui durent une journée, quoi. Ça se fait bien pour maintenant de plus en plus pour les films, les films de théâtre, les opéras, les chinois ou autres. C'est-à-dire ça dure une journée. Bon, moi j'aime pas ça, mais pour des séminaires par exemple, très bien, ça se fait, ça, des séminaires qui durent.
Je voudrais prendre quelques produits quand même.
Non, mais avec des interruptions, mais ça permettrait peut-être de. Parce que là, du coup, ça fait presque enlever, on oublie un peu. Enfin, si au moins on retient qu'il faut parler de ces fantasmes. Non ? D'accord. Non, mais je ne sais pas si.
Vous pouvez le mettre dans la salle d'attente,
vous pouvez le mettre. Oui, c'est ça. Ça fait un peu le titre de Psychologie Magazine.
Non, mais vous n'avez pas cette expérience aussi que c'est quand même. Les gens ne pensent pas que c'est intéressant, c'est important, je ne sais pas.
Alors, je pense que ça va. Ça va peut-être faire écho. Là, j'ai voulu revenir sur le terme de fixation dont j'avais parlé la fois précédente. Et puis, je reviens justement sur ce terme. C'est peut-être que j'ai fait une fixation. Mais il y a aussi que, il me semble que c'est un joint entre pulsion, fantasme et symptômes. La fixation traverse quand même l'œuvre de Freud, et donc je voudrais vous donner quelques petits exemples brièvement pour voir un peu dans quel texte il travaille la question de la fixation. D'une part, Freud lit dans les trois essais, donc 1920, la fixation et la théorie de la libido, comme je l'ai dit la dernière fois. Elle se définit par sa persévération dans le temps, ce qui donne un aspect anachronique à ce qui se répète. En 1923, avec les stades de la libido dans l'organisation génitale infantile, la notion de fixation prend une nouvelle extension, une nouvelle forme. Il ne se porte pas seulement sur un but ou un objet de fixation, mais elle est cause de la structure. Par exemple, vous avez entendu, une fixation d'un état d'anal serait à l'origine d'une névrose obsessionnelle ou d'un certain type de caractère. Peut-être que je me suis dit que peut-être ça vient de là, le fait que dans la langue, on dit que quand quelqu'un est un peu caractériel et qu'il pique des crises, il fait un caca nerveux. Mm-hmm. Hein? Il y a comme des choses comme ça qui se croisent. Dans, au-delà du principe de plaisir, la fixation est liée à la question du trauma. Et donc, cela explique un peu la question de la compulsion à la répétition. Mais déjà avant, donc en 1915, avec les refoulements, donc ce que tu disais tout à l'heure, la fixation est à l'origine du refoulement et peut être considéré comme le premier temps du refoulement, c'est-à-dire le refoulement originaire. Freud nous dit « Nous sommes ainsi fondés à admettre un refoulement originaire, une première phase du refoulement qui consiste en ceci, que l'admission au conscient est refusée à la représentance de la représentation psychique de la pulsion. » Avec lui est déterminée une fixation, la représentance correspondante persiste à partir de là de façon immuable et la pulsion reste liée à elle. Donc, premier refoulement originel, c'est, on dirait, la fixation. Mais je me suis dit que c'est déjà ce terme fixation, il est déjà avec la fondation de la psychanalyse, avec l'invention de la psychanalyse, il y a déjà le terme fixation dans les études sur l'hystérie. Et c'est là lié aux symptômes. Freud utilise le terme de fixation pour mettre en relation la représentation refoulée, le souvenir et les symptômes. Vous vous souvenez peut-être du cas d'Elisabeth von R. J'avais toujours adoré cette fille. J'ai beaucoup aimé ce cas. Je vais faire un petit résumé de ce cas parce que je trouve ça intéressant par rapport à la fixation. Elle vient rencontrer Freud car elle souffrait des douleurs dans la cuisse droite et elle avait une paralysie fonctionnelle. Elle avait déjà été diagnostiquée hystérique avant d'arriver chez Freud, parce que c'est un collègue de Freud qui l'adresse. Donc, dans l'analyse avec Freud, le symptôme s'historise. Nous apprenons que c'est une femme de 24 ans, et c'est la plus jeune des trois sœurs. Il avait une place des garçons pour le père, son père l'a considéré comme le garçon qu'il n'avait pas eu, à cause de son caractère et son côté revendicatif. Quelques années avant l'analyse, le père tombe malade suite à une maladie cardiaque, et la jeune femme, qui est dévouée au bonheur familial, reste près du père pendant toute la maladie. Jour et nuit, Elisabeth s'occupe de son père, restant à son chevet. Tous les matins, le père, donc c'est dans l'analyse effectivement que cela surgit comme souvenir. Tous les matins, le père reposait ses jambes enflées sur la cuisse droite d'Elisabeth, qui lui changeait son bandage. Celle-ci va venir la zone d'effixation du symptôme, où le symptôme va se manifester. Donc, on peut dire que cette jeune de 24 ans avait peut-être d'autres envies, d'autres chats fouettés que rester auprès de son père. À l'époque, dès la maladie du père, Elisabeth elle s'absente de sa fonction de garde-malade pour aller se promener avec un homme qu'elle désirait. Mais au moment, elle fait une promenade, mais quand elle revient, elle trouve que son père va au plus mal. Et elle s'en veut, donc, Freud nous raconte qu'elle s'en veut d'avoir laissé le père tout seul. Et quelques jours plus tard, elle fait une première crise de douleur à la cuisse droite qui l'empêche de rester debout. Cette crise ne dure que quelques jours. Et après, elle est guérie. Après, il y a toute une histoire de mariage des sœurs, le père meurt, et après la mort du père, Elisabeth s'occupe de la maladie de sa mère. Donc les sœurs se marient avec des hommes, un qui est très arrogant, raconte Freud, l'autre qui est très sympathique et très attentif. Puis Elisabeth toujours à s'occuper des malades, et donc jusqu'au moment où, pendant qu'elle s'occupe de sa mère, il y a la sœur cadette qui était mariée avec cet homme attentif qui tombe malade, et aussi elle avait une maladie cardiaque. Et puis finalement, pendant la maladie, elle est rappelée avec sa mère, elle fait une promenade avec son beau-frère, et puis la sœur meurt, et il y a toute une histoire avec les beaux-frères, le beau-frère qui s'éloigne, il y a des histoires d'argent et tout ça. Mais Freud découvre dans l'analyse, c'est à partir de ce que Elisabeth amène. D'une part, que l'hypnose ne marchait pas avec elle, et que finalement, elle savait quelque chose sur son symptôme, donc c'est important. Mais en plus, que par rapport à sa difficulté, ses douleurs et ses crises, avec son impossibilité de marcher, Elisabeth éprouvait un désir pour son deuxième beau-frère, donc, et qu'elle aurait fantasmé de pouvoir devenir sa femme une fois que sa sœur n'était plus un obstacle. Une fois la sœur morte, elle pouvait marier le beau-frère. Si je vous rappelle ce cas, c'est parce que la fixation semble avoir une place très importante dans la construction du symptôme du fantôme du père, du fantôme. Il y a fixation donc sur la zone d'apparition du symptôme, la cuisse et les lieux d'échange avec le père, l'échange tendre avec le père, la cuisse procure une information par rapport à la source somatique qui est érotisée, mais cette fixation s'éteint à la marche. L'impossibilité de marcher a un lien avec les promenades, d'abord celle de son premier amour et après celle du beau-frère. Et c'est intéressant parce que c'est pris dans ce qu'elle dit à Freud, elle dit qu'elle avait l'impression de ne pas pouvoir avancer dans la vie comme ses sœurs. Donc, il y a tout ce montage entre la fixation dans un lieu du corps, les représentations, les choses qu'il a vécu, et puis il y a aussi ce qu'elle dit de son état. Vous voyez que pour Freud, la notion, comme disait Eric Porge tout à l'heure, la notion des fantasmes n'est pas du tout la même que pour Lacan. C'est pour Freud, les fantasmes, donc il y a les originaires, mais il y a aussi les autres fantasmes, ceux d'Elisabeth, ne sont pas les fantasmes fondamentaux. On verra que le terme de fixation n'a pas la même portée chez Freud que chez Lacan. Pour Freud, la fixation se trouve à l'origine du refoulement et c'est quelque chose un peu à enlever. Pour Freud, donc la fixation a un lien avec le souvenir refoulé et donc avec la mémoire et l'oubli. Il marque plusieurs temps dans la compréhension du symptôme. Donc il y a le temps de la fixation, de la conservation, de l'évocation et de la remémoration de l'analyse. La fixation, donc, pour Freud, est Niederschrift, une trace d'un des séries des systèmes mnésiques. Alors, Niederschrift, ça a été traduit comme inscription. Mais il y a un mot allemand pour inscription, c'est Inschrift. Alors, Niederschrift, c'est plus une transcription qu'une inscription. En tous les cas, il y a une résonance avec quelque chose d'écrit, avec l'écrit. Alors, c'est intéressant dans la lettre que Freud fait à Flick du 6 décembre 1896. Là, il y a la théorie de la fixation en tant que trace mnésique. Et donc, c'est à partir de là qu'il s'organise la question du refoulement et le retour du refoulé. Alors, vous voyez que là, la question de la trace. Donc, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais je vais quand même le dire, c'est que ça diffère de la lecture de Lacan sur la trace. Quand il parle de l'écrit, en litturateur, il va dire « rature d'aucune trace qui soit d'avant ». C'est qui fait « terre du littoral ». Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais... je vous disais la dernière fois que Lacan, pendant son séminaire sur l'éthique, met en relief la corrélation chez Freud de ces deux termes, fixation et persévération, Fixierbarkeit et Haftbarkeit. Je suis revenue donc chercher chez Freud comment il utilise la notion de persévération. Alors, en dehors de trois essais sur la théorie sexuelle. Et donc, il y a effectivement plein d'endroits où il parle de persévération, donc déconnecté de la fixation, quoique. Par exemple, dans son étude sur les aphasies en 1891, Freud parle de ces phénomènes de langage, qui sont des persévérations, c'est des persévérations des mots. En 1901, dans Psychologie de la vie quotidienne, Freud parle d'un copiste qui se trompe systématiquement sur les mêmes mots. Donc il nomme cette insistance une persévération. Dans l'introduction à la psychanalyse en 17, il parle des persévérations des mots. Donc il y a Freud. Il y a ce lien entre persévération et mort. Je vous avais lu la dernière fois, donc cette citation de Lacan du séminaire de l'éthique sur lequel je vais revenir. Il dit, dans la page 106, Freud, dans les trois essais sur la théorie de la sexualité, emploie concernant les effets de l'aventure libidinale individuelle deux termes corrélatifs. Fixierbarkeit, ces fixations dont nous faisons les registres d'explication de ce qui en somme, de ce qui est en somme inexplicable, et Arbarkeit, que l'on traduit comme l'on peut, comme persévération, mais qui a toute une curieuse résonance en allemand, car cela veut plutôt dire responsabilité et engagement. Alors, Arbarkeit vient effectivement de Arbar, qui est responsable, hein. Et je fais les liens la dernière fois, et je reviens là-dessus, avec le fait que dans ces séminaires, Lacan travaille sur la tragédie d'Antigone. Et dans les séminaires, Antigone devient un emblème. Un emblème ou un emblème ?
Un emblème.
Il incarne celle qui prend acte de son désir jusqu'au bout. Désir qui est l'effet d'une persévération dans cette dimension d'engagement et de responsabilité par rapport à son désir. Sur ces termes de fixation et persévération, et en suivant Antigone, je suis tombée sur un article qui a été traduit de manière un peu partielle, de Johann Kopjek. C'est une philosophe américaine qui a écrit un article en reprenant cette citation qui s'appelle « La tombe de la persévérance à propos d'Antigone ». Tu le connaissais ? Et donc, dans son article, elle fait une lecture qui est la sienne. Donc, elle met la fixation du côté des crayons et la persévérance, dans le sens du mot Arbarkeit, du côté d'Antigone. Alors, même si je ne partage pas cette division en deux personnages, même si ça peut être intéressant de le penser, je peux le faire circuler ce sujet. Ce qui me semble intéressant, c'est que cela dit autre chose de ce mot, Arbarkeit, de persévération. En faisant quand même, Johann Kopjek opère un glissement de mots entre persévération et persévérance. En allemand, ces deux mots n'ont pas du tout la même racine, en fait. Donc, persévération, c'est Arbarkeit, et persévérance, désolé pour ma mauvaise prononciation, c'est Ausdauer. C'est un peu l'endurance, la capacité à tenir les coups, et ça peut être traduit aussi par Beharrlichkeit, ce qui serait la persévérance, donc entre persévérance et endurance, quoi. Donc, par contre, en anglais et en français, oui, il y a la même racine, persévérance et persévération. Moi, ça me surprend toujours parce que chaque traduction, c'est toujours une nouvelle invention, quoi. Il y a toujours une petite chose différente. Mais ces glissements permettent de saisir la persévération dans sa dimension héroïque, hein, comme responsabilité et engagement, comme nous dit Lacan dans le séminaire de l'éthique. Et c'est en partie cela ce que je voulais dire la dernière fois en parlant de la fin de l'analyse, c'est-à-dire que quelque part, ce qui peut être attendu à la fin de l'analyse, ça serait que la fixation de la pulsion devienne une persévérance du désir, en quelque sorte. C'est plutôt dans ces sens-là que c'est à la fin que la pulsion Et pour quand même compliquer un peu plus les choses du côté de la fixation, parce que je trouve quand même que c'est quand même important de travailler cette histoire-là des fixations. Lacan ne travaille pas cette histoire des fixations juste là, mais il le reprend bien plus tard, hein, dans sa conférence de Genève, sur le symptôme. Et donc, il va venir il va parler des fixations en relation à l'écrit, pour répondre aux questions sur le psychosomatique. Donc je ne veux pas m'attarder là-dessus, je vais juste lire la phrase, je vais m'arrêter là, parce que bon, j'ai déjà travaillé un peu ça, et il y aura bientôt un texte qui va sortir, mais on pourra le reprendre plus tard. Il dit, Lacan, donc, dans la conférence des Genèves, « Si j'ai évoqué une métaphore comme celle du gelé, c'est bien parce qu'il y a certainement cette espèce de fixation. Ce n'est pas pour rien non plus que Freud emploie les termes de Fixierung, c'est parce que le corps se laisse aller à écrire quelque chose de l'ordre du nombre. Le psychosomatique est quelque chose qui est tout de même dans son fondement profondément enraciné dans l'imaginaire.
Voilà. Du nombre.
Du nombre. Voilà, je m'arrête.
Johann
Topchek.
Comment tu l'écris?
Non, c'est Topchek. C'est C-O-P-J-E-C. Johann, c'est une femme. Johann. La tombe de la persévérance, deux points à propos d'Antigone. Et c'est dans la revue Savoir et Clinique, de 2002, numéro 1.
C'est une question là, par rapport au signifiant primordial. Le fait que ce soit un signifiant hors sens qui abolit tous les sens, mais en même temps, c'est quelque chose qui organise aussi l'essence. Je ne sais pas si on peut dire l'essence, mais qui organise dans l'histoire de l'homme ou par exemple. Abolir tous les sens, c'est un drôle de chose. Alors, on comprend, mais c'est tout ça dans le monde humain. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est en même temps plein de sens, ce mot-là.
Oui, donc il n'est pas pris pour son sens, quoi. Il est pris pour en tant que qu'il est hors sens et qu'on le retrouve à différents endroits, dans des contes, dans des fantasmes, dans des rêves, etc. Et que donc il comme une marque finalement, un peu une fixation signifiante qui voilà, est la marque de signifiant primordial. Mais effectivement, ensuite, loup, si c'est bien ça, loup, ça a un sens, oui. Loup,
ça a un sens. Ça organise de façon signifiante.
Mais ce n'est pas en tant que sens de loup qu'il agit, disons. Il agit en tant que. Il est une sorte de marque, de cicatrice, de sujet. Que là, au niveau, là, à ce niveau-là, le sujet, il est assujetti. On est assujetti à ce signifiant. Et alors, c'est après, dans un second temps, qu'effectivement ce signifiant va pouvoir éventuellement le représenter pour d'autres. Mais dans le moment où ce signifiant opère, en quelque sorte, comme signifiant primordial, en fait, si on essaie de comprendre ce que dit Lacan, dans ce moment-là où il opère comme signifiant primordial, il ne renvoie pas à un autre signifiant, mais il renvoie à quelque chose de troué, en quelque sorte, on peut dire, qui fait que ça entraîne chez le sujet un mouvement de retour sur ce moment-là, en quelque sorte, de retour sur ce point d'origine. Mais c'est un mouvement de retour. Et après, que, avec, dans ce retour, d'autres signifiants vont venir pour le représenter. Mais c'est le, disons que c'est comme un signifiant qui fait que le bord d'un trou, dire, c'est le bord d'un trou, le trou du sujet.
Mais il arrive à le récupérer, à se faire un nom avec. Un petit signe, il y a quand même quelque chose là. De...
Oui.
Je ne sais pas si on peut laisser une domination, mais en fait, quand même, il va le signer.
Oui.
C'est ça ce que tu as fait, fixation induite par les analystes.
Oui.
Fixation dans le.
Je crois quand même que. Oui, c'était très induit par les analystes. Mais en même temps, c'est quelque chose qui lui correspondait. Mais là où il. Quand il va pour le signer, c'est. Disons, c'est effectivement une trace lointaine de ce signifiant primordial. Quoi. Enfin, un peu surnagé, mais le, c'est, ça n'est déjà plus. Enfin, c'est mêlé de beaucoup d'autres choses. Quoi. Donc, tel que ça opère dans son histoire, ses rêves, dans sa névrose, dans ses phobies, etc. C'est... Après, effectivement, il en fait quelque chose. On peut dire. Et donc, on peut, oui, on peut se demander si c'est pas ensuite, oui, c'est pas pris dans une sublimation. Mais bon, ce serait, faudrait le voir. Effectivement, faudrait bien relire le mouvement, tous les. Les notes, son journal, de l'autre, son journal, le livre qu'il a écrit, le livre des interviews de Karim Obsolaire, je crois, enfin, bon, les ouvrages qui ont été pris avec lui, voir comment c'est passé effectivement dans. Enfin, comment ce terme est passé, à quel moment il est passé dans le public et comment exactement, quoi. Enfin, c'est passé, c'est vrai, il y a des tableaux signés.
En vous écoutant, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se répandait l'un et l'autre, et mes questions très extrêmement difficiles, c'est le lien entre ce terme, quand même, signifiant primordial, qui est une énigme, quand même, et la lettre. Et la question de la lettre, parce que comment est-ce que les deux s'articulent, et est-ce que la question, enfin, et en même temps, est-ce qu'on peut les différencier, est-ce que c'est différent, parce que toutes les cures et toutes les structures des patients qu'on reçoit ne sont pas des hommes ou loups, on va dire. Donc c'est quand même très particulier la manière dont la fixation sur le V se fixe chez l'homme lourd. C'est pas vrai dans toutes les cures de patients pour soi. Alors, on peut faire l'hypothèse que pour tous les patients, il y aurait éventuellement ça, mais c'est une hypothèse. C'est pas forcément quelque chose qui, enfin, à mon sens, qui se réalise. En tout cas, qui se vérifie, plutôt. C'est plutôt ça. Je pense à un certain nombre de patients, enfin de fin de cure, où la question, il y a un signifiant qui est effectivement d'une certaine manière, qui n'a pas de sens, qui vient d'un seul coup éclairer des choses extrêmement différentes de symptômes, d'articulations, de fantasmes, de fantaisies, d'une certaine manière. Est-ce que le signifiant primordial, ce serait ça? Est-ce que ça serait un exemple de signifiant primordial, de quelque chose qui d'un seul coup vient rassembler énormément de choses totalement éparses qui renvoient à l'histoire du sujet, ou l'histoire de ses parents, ou de ses grands-parents, etc., ou quelque chose qui a été construit comme ça. Et donc, ça c'est une autre question, mais je pense que c'est pas du tout quelque chose en plus qui apparaît dans toutes les cures, ou qu'en tout cas toutes les cures ne vont pas forcément jusque-là. C'est-à-dire que la question de la fin de l'analyse dont parle Lacan, c'est quand même une fin extrêmement... Je pense que toutes les cures n'arrivent pas là.
Mais est-ce qu'on peut dire toutes les cures? Parce qu'il y a quelque chose qui apparaîtrait dans toutes les cures. Non, je ne sais pas, mais je suis d'accord avec toi, mais est-ce que... Voilà, c'est le fait que ça existe dans une cure, bon, c'est un exemple qui peut être suffisamment... qui peut...
Oui, mais si tu veux, ça renvoie. Non, mais peut-être que si j'insiste un peu par rapport à ça, c'est ce que tu disais sur la traversée du fantasme.
Oui.
C'est que ça peut devenir quelque chose d'un os.
Ça peut
devenir quelque chose. Alors que c'est pas forcément évident. Et puis, dans l'autre question, que je trouve compliquée, c'est la question quand Lacan prend l'exemple de tout en différenciant, justement, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, en différenciant les fantasmes originaires chez Freud, la question du fantasme primordial, et en même temps, quand il reprend dans la logique du fantasme l'exemple de Freud d'un enfant débattu, qui est en fait un fantasme originaire, c'est un fantasme de castration. Donc, c'est quelque chose quand même qui est, et c'est déjà quelque chose qui est pris dans le livre. Alors, ce qui est, est-ce que justement dans la construction du fantasme, alors c'est une question, enfin pour moi il y a des niveaux assez différents, quoi. Il y a le fantasme fondamental qui est une sorte de matrice, vraiment presque la formule de Newton à la limite, quoi. S barré poinçon de quita, qui va éventuellement permettre qu'il y ait des fantasmes inconscients et qui vont, troisième niveau, qui vont donner des fantasmes conscients, des fantaisies par exemple. Mais que la construction, et je pense en cure, on sait bien qu'il y a des patients, enfin en tout cas il me semble, que la question du fantasme n'est pas construite. Ça va se construire à l'intérieur de la cure, justement, ce fantasme. Donc il y a bien quelque chose, il y a bien une matrice qui est déjà là, mais où, dans la position, c'est-à-dire il y a quelque chose qui est bien de S. Barré et Poinçon de quita, mais qui d'une certaine manière, c'est une... La grammaire, on pourrait dire, elle est complètement déformée, quoi. Ou on peut dire que le sujet visé, on ne sait pas trop où il est, des fois, et il est peut-être complètement du côté de l'objet A, déjà, mais l'objet A n'est pas détaché. C'est-à-dire que la matrice, elle existe, et c'est que dans un second temps, éventuellement, dans la cure analytique, dans le transfert, qu'il y a un fantasme qui va pouvoir se construire, quoi.
C'est, enfin, voilà, c'est une question. Se construire, c'est un peu.
Se construire avec l'analyse.
Non, c'est pas évident de dire se construire, parce que ça supposerait qu'il se construit pas. Il y a quelque chose de. Une construction dans l'analyse de ça, je ne sais pas.
Oui, dans le sens. Je pense que pour qu'un fantasme puisse se construire en ce sens-là, il faut qu'il y ait une perte. Et que la perte, elle n'est pas donnée d'emblée. Je pense qu'elle se donne à l'intérieur même de la cure.
Non, mais tout dépend de ce qu'on appelle construction. Est-ce que construction, c'est cette opération quand même de réduction, c'est une opération de perte, de réduction. On réduit les choses, on les ramasse, comme le fait Freud pour un enfant battu, à partir de bribes, etc., sur étaler sur longtemps. Il les réduit à quelques éléments, mais, et puis il en fait ce fantasme-là. Donc ça, si c'est une construction, oui, c'est le sens d'affiner en quelque sorte la matière.
Je pensais pas ce sens-là.
Moi, c'est ça que je vois. Parce que sinon, moi, pour ma part, je pense que le fantasme est déjà là, si tu veux, mais qu'il est tellement caché, tellement recouvert, justement, par soit la gêne, la honte, et le fait qu'on n'en parle pas, le fait que c'est mêlé... de tas de choses qui fait que bon, on ne veut pas en détacher les éléments signifiants, mais qui sont là, qui sont déjà là.
En plus, on est agi par le fantasme. Ce n'est pas seulement qu'on ne veut pas le dire, c'est qu'on est agi, on est parlé par le fantasme. Du coup, c'est dans l'analyse. J'ai l'impression que c'est une construction, c'est que comme. Ça s'historise, ça se déblaye, ça se répère. Ça se...
quand on parle de repérage, c'est, y a, ça se repère quelque part.
Du moment de nouage entre les trois termes.
Ouais.
Peut-être d'ailleurs, peut-être qu'il y a une fixation, c'est un moment de fixation, de nouage entre les trois termes. Est-ce que quand c'est noué, ça peut se dénouer? Est-ce que ça peut. Enfin, si on parle de construction, ça peut être une évolution. Est-ce que c'est là, c'est on le réduit on le...
Ben, c'est un peu plus, à l'exemple de Bechstein qu'on a vu l'année dernière. Son fantasme il s'est dénoué à un certain moment justement. Bon, alors c'est un cas de folie. Donc effectivement, il y a des éléments du fantasme considérés qui peuvent se dénouer. Puisque c'est ce fantasme, c'est cette espèce de d'accrochage synchronique comme ça entre les termes. Ben, ça prend ou ça prend pas, puis ça peut se détacher. En tout cas, dans le Bechstein, c'est ce qui se passe. C'est après la scène du bal, elle est absente, elle-même. Enfin, elle est là, elle est figée, et pour reconstruire son fantasme, il y a cette rencontre avec Jacob et Tatiana. Mais. Voilà, donc elle reconstruit son fantasme. Enfin, c'est-à-dire le fantasme était déjà là, sauf. Donc ça s'est noué, ça s'est reconstruit. Donc il y a effectivement une dynamique, quoi, du fantasme. Mais les éléments.
Ça reste le regard.
Comment ?
Ça reste le regard.
Ça reste le regard, et disons que les. Voilà, tout ça. Mais il y a un nouage, un dénouage, oui, alors faut. Voir s'il peut y avoir des renouages, par exemple, qui soient différents. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut passer d'un fantasme à un autre ?
Quand j'évoquais ça, je pense effectivement à la question de la folie, vraiment des folies. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose, effectivement, de considérer par rapport à la question de la construction. La question de la construction, c'est qu'il y ait des éléments signifiants. Déjà là, ou qui se construisent au fur et à mesure de la cure, c'est une question quand même, hein, ça, enfin, on ne sait jamais comment on peut dire que c'est déjà là depuis toujours, ou on peut dire que c'est au fur et à mesure de la cure que ça se construit. Enfin, je trouve que c'est pas toujours simple comme question, ça. Mais il peut y avoir des éléments totalement épars, mais ce que tu dis là, c'est pas pour ça qu'ils sont articulés ensemble, c'est-à-dire que c'est dans le transfert que quelque chose va pouvoir éventuellement s'articuler, et qu'à partir de ce moment-là, l'analysant ou l'analyse va pouvoir faire une construction, reconstruire, hein, comme Freud le fait avec un enfant évacué. C'est deux types de construction complètement différentes, quoi. C'est-à-dire qu'il y a d'abord quelque chose qui. Mais est-ce que c'est déjà là, ou est-ce que ça va se construire à l'intérieur de la cure? Je pense que dans le cas de Bechstein, est-ce que son fantasme, bon, on ne le sent jamais, c'est une construction et puis, mais bon, voilà comme peut-être, est-ce que son fantasme était différent avant ou après? Est-ce que c'est ce qui s'est passé au moment où, ça, où elle décompense son fantasme, où elle disparaît, où elle chute? Et après, est-ce que c'est différent ou est-ce que d'une certaine manière, il y a. Enfin, c'est le moment de cette. Enfin, voilà, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est le moment de cette. Au moment où ça se noue, où ça se dénoue, et comment est-ce que ça va pouvoir se renouer dans, à l'intérieur d'une queue. Voilà. Ce qui est différent d'analyser, de comprendre, d'arriver à trouver la formule signifiante du fantasme. C'est pas la même chose.
Oui. Oui, mais alors là, si tu parles de nouage, effectivement, je crois que c'est plus dans des cas de folie que les questions se posent.
Mm-hmm. On en a beaucoup.
Si,
hein. On en a beaucoup.
Oui, mais c'est déjà important d'aborder la question de la folie avec le fantasme aussi. Mm-hmm. Et là, il y a ce problème de savoir ce qui se noue, ce qui se noue, oui.
Moi, j'observe que le fantasme d'un enfant est battu, c'est déjà très pris dans le vide. C'est
déjà quelque chose d'assez constitué, c'est déjà quelque chose d'assez...
Ah bah, d'assez preuve, c'est complètement pris dans le vide,
oui, bien sûr. Hein, mais...
Oui.
Ça fait penser au témoignage, parce que souvent on parle de chez Joyce, là, les trois, le nœud de RSI qui se dénoue, et c'est la folie. Et là, ce serait une autre forme de. C'est le dénouage du fantasme, quoi. Parce que ici, sur le Liechtenstein,
oui.
Ce serait le dénouage du fantasme qui serait une forme de folie, de moment de folie.
Oui, ben je ne sais pas si on peut dire que c'est le dénouage qui est une forme de folie, mais que disons que une forme de folie qui n'est plus suppléée par un nouage de fantasme, en quelque sorte. Est-ce que c'est vraiment ça la folie, proprement dit ? Je ne sais pas. Jusque-là, dans le cas de Frankenstein.
Si le fantasme est une suppléance.
Oui. Ben, le fantasme, de toute façon, est une suppléance. C'est ça qu'il faut dire dès le départ. Le fantasme est une suppléance. Et c'est une nomination défaillante. C'est-à-dire que le fantasme supplée à une nomination défaillante. C'est, les termes sont assez forts, quoi. Le sujet, c'est pas, il ne peut pas désigner, c'est pas simplement qu'il ne peut pas trouver la qualité qu'il a, qu'il est ceci ou cela. Il ne peut pas désigner son être de sujet autrement que. En se raccrochant dans un moment où il tombe complètement, en se raccrochant à un objet qui est prélevé sur lui-même, enfin qui est dans une articulation de plusieurs registres. Donc c'est un moment de suppléance.
Est-ce qu'on peut dire que ce que disait Alain, c'est que le délire essaie de faire le travail que ne ferait pas le fantasme, dans le cas de quelque chose qui n'est pas monté. En fait, c'est ça, on a les éléments, mais il n'y a pas de montrer du fantasme dans ce que vous
dites. C'est pas évident de distinguer délire et fantasme.
Oui, la question finalement qui était contenue là-dedans, ça ne se présente pas de la même manière, mais en effet, il y a les mêmes éléments. Dans le sens où il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est l'aspect du scénario qui se répète dans la névrose, qui illustre, me semble bien, le fantasme comme support du désir, ce qui rend possible un certain rapport désirant, mais très figé, symptomatique, c'est l'action de symptômes qui est bien. Là où, pour soutenir quelque chose dans le désir, enfin, la psychose ne me présente pas comme ça. Je ne sais pas, de manière peut-être plus scénarisée et répétitive. Enfin bon, enfin, peut-être. Sur le rapport délire-fantasme, en fait.
Bah oui, non, mais justement, je crois que on a souvent tendance à penser que le fantasme ne concerne pas la psychose et que. Or, c'est important aussi de rester dans la psychose, et à ce moment-là, il y a quelque chose qui est plus compliqué, composé, c'est-à-dire psychose et fantasme. Et que le fantasme, le délire peut lui-même être inclus dans un fantasme, d'une certaine façon. Enfin, ça fait un abord différent de la psychose comme telle, je crois, si on y inclut le fantasme, oui. Donc c'est ce que fait quand même Lacan. C'est ça quand même une des grandes leçons de Wittgenstein, c'est qu'il aborde un cas de folie avec le fantasme. Enfin, c'est quand même instructif de penser ça. Et donc ça ne veut pas dire que le. Parce que du coup, c'est la séparation qui quand même demeure dans cette mesure entre la psychose et la névrose. Ne touche pas la question du fantasme, enfin, traverse la question du fantasme, traverse ça, et donc faut voir, je ne sais pas ce que vous appelez délire, c'est par exemple, bon, si on dit l'hallucination, si on dit l'automatisme mental, oui, n'est pas un fantasme, ça, voilà, ça, l'automatisme mental n'est pas un fantasme, bon, mais effectivement, ça, c'est la psychose. Enfin, et enfin, non, c'est la psychose, disons, c'est un moment de psychose, quoi, mais c'est pas délire, ça, d'accord. Alors le délire, c'est faut voir.
Oui, oui, non, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais c'est justement dans le dogmatisme mental, ça c'est plus autrement le sujet,
oui.
Puisqu'il est sans cesse en panique, oui. On pourrait dire comme ça, comme oui. S'il y avait une fixation en deuxième étage, enfin, quelque chose comme ça. Dans ce que vous avez décrit, enfin, c'est
vous. Oui.
Mais là, dans la discussion, on fait ce même paradigme romain qui permet de faire autre chose, peut-être que c'est pas votre volonté finalement.
Enfin, moi, quand je posais cette question, je pense, quand je parlais de folie, je pensais pas à la psychose. Hein. La folie au sens, on peut dire, les folies, enfin, vraiment, les livres ou le Bechstein, ce sont plutôt des psychotiques.
Oui, oui.
On peut le dire.
Enfin, il a quand même dit qu'elle était cliniquement folle. Ben, je veux dire, c'était pour lui, et il l'a dit à Marguerite Duras, et Marguerite Duras enfin, était d'accord. Ça. Et bien si, c'est, pour Lacan, c'était vraiment un cas de folie, de psychose. Quoi. Je ne sais pas, elle n'était pas folle. La prochaine fois, je ne sais pas si on se réunit ici.
Non, on s'est réunis à l'IPT, le 10.
Donc, ce n'est pas le 3, hein.
Le
10, c'est le 10 février à l'IPT.
10
mars.
Oui. Non, c'est le 10 mars à l'IPT.
Après, on revient ici le deuxième. C'est exceptionnellement. C'est compliqué ? C'est pas compliqué.
Donc, la prochaine séance, c'est le 10 mars à l'IPT. IPT, c'est l'Institut
protestant de théologie, 80 boulevard Arago. Non, ne vous trompez pas, oui. C'est une salle que vous connaissez déjà, mais bon.
Toujours 21h.
Ah, toujours 21h, oui.